Le triangle de Karpman, ou triangle dramatique, est un schéma psychologique inconscient qui vise à manipuler les individus et orienter la communication dans le but d'obtenir de l'attention ou quelque chose en particulier. Habituellement initié par la personne qui adopte le rôle de victime, la communication va être perturbée dès que les personnes en interaction jouent l'un ou l'autre des rôles, incluant le bourreau et le sauveur, au lieu d'exprimer leurs émotions ou leurs idées. Pouvant se manifester entre deux personnes comme à plusieurs, ce schéma démontre automatiquement une relation déséquilibrée et malsaine. Bienvenue dans Hypnoconscience. Ça demande beaucoup de conscience et de lucidité pour réaliser que l'on est pris dans des mécanismes relationnels toxiques. Hypnoconscience, c'est le podcast pour te donner des pistes à explorer et des façons de t'en sortir. Le triangle de Karpman, comme je disais, ou le triangle dramatique, peut se jouer dans plusieurs dynamiques, de plusieurs façons. On peut jouer à deux, peut jouer à trois, peut jouer à plusieurs. Il va se jouer à deux exemples quand la victime identifie un bourreau, par exemple le conjoint qui identifie sa conjointe comme étant pas fine ou ayant fait des choses qui n'étaient pas correctes, et qui automatiquement va se permettre ensuite de devenir le sauveur, donc de prendre des moyens pour rétablir la situation comme s'il était un grand justicier. C'est typique du couple. Bien sûr, la victime peut jouer les trois places, c'est-à-dire qu'elle peut se victimiser, ce qui va stimuler la culpabilité. Elle peut ensuite se mettre en sauveur. Et après ça, exagérer tellement qu'elle devient elle-même le bourreau. Dans un autre cas, tu as la victime qui va identifier un bourreau et, comme je disais, elle-même passer au sauveur en se sentant légitime, souvent même de violence ou d'actes démesurés. Je dis violence, pas nécessairement violence physique, mais ça peut être violence verbale, violence d'actes autres, comme par exemple, qui est typique dans l'activisme. On va le voir aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens qui se sentent victimes de propos, qui vont se permettre d'insulter, menacer, etc. Et ils se sentent intérieurement complètement légitimes de faire ça parce que, ben oui, t'as été pas gentil, donc t'étais un bourreau, donc j'ai le droit de me défendre. Sauf que tout ça se passe habituellement dans leur tête. Ça peut jouer à trois. Exemple, la personne se place en victime. Elle identifie un bourreau pour stimuler une troisième personne à devenir sauveur. Souvent, on va voir ça dans les milieux publics, comme les milieux de travail. On va voir ça aussi dans l'activisme. On va le voir peut-être un petit peu moins dans le couple, quoique ça peut se voir aussi. Comme je le disais, ben, ça peut impliquer des groupes, pas nécessairement des personnes. On peut viser des groupes de personnes comme étant soit des bourreaux ou qui vont se mettre comme victimes ou comme sauveurs. Dans tous les cas, on peut voir que ça vient beaucoup de la victime. Donc, c'est typique de la victimisation parce que j'en ai parlé dans plusieurs podcasts. Il y a une différence entre être vraiment victime et quand même prendre ses responsabilités, et prendre une attitude de victimisation, comme j'appelle toujours gentiment la victimite aiguë, qui va amener la personne à prendre absolument aucune responsabilité et à tout mettre la faute sur les autres. Je t'invite, avant de développer plus loin, à partager cet épisode-là autour de toi si tu trouves que c'est intéressant, si tu trouves que ça peut faire réfléchir des personnes. Et je t'invite à venir t'abonner au groupe Hypnoconscience sur Facebook, qui est le groupe spécialement dédié à mes auditeurs de podcast pour leur permettre de me poser des questions et de me proposer des sujets. Et si tu viens t'inscrire, il y a un mot de passe et le mot de passe, bien sûr, est podcast. Tu n'auras pas besoin de chercher loin pour le lien va être en description de l'épisode que tu es en train d'écouter. Donc, la victime, si je les prends par un, la victime se sent et manifeste, elle se manifeste comme étant opprimée, impuissante, sans espoir, honteuse. Elle semble incapable de prendre des décisions, de résoudre ses problèmes. C'est comme si elle met la faute sur les autres du fait qu'elle ne prend pas plaisir à la vie ou qu'elle a des problèmes. La victime va constamment pointer du doigt des causes extérieures pour tous ses malaises, que ce soit pointer des personnes, des groupes, des situations X, Y, Z, des maladies aussi. Tu as des gens qui vont se mettre en victime à cause de maladies. La victime va accuser et culpabiliser, c'est le mot qui est important ici, ce qu'elle croit être le bourreau ou le persécuteur et en général ne va prendre aucune responsabilité pour son état. On peut voir dans la victime du narcissisme. Souvent, on a tendance à croire que ce que le narcissisme, c'est quelqu'un qui se prend vraiment au-dessus des autres. Puis on va le voir dans Le Sauveur aussi, il y a un petit côté narcissique. Mais il y a quand même un gros côté narcissique dans la victime en ce qu'elle croit que le monde entier doit changer pour elle. Hein? Tout tourne autour d'elle, donc tout le monde devrait changer. On le voit énormément dans certains types d'activistes présentement, qui est très fort depuis quelques années. Faudrait tout changer, la structure sociale, faudrait changer toute la façon dont on écrit les mots, faudrait changer un paquet d'affaires parce que eux autres, ils ont de la peine. Donc, manque de responsabilisation, accusation de l'extérieur. Ce que j'ai remarqué aussi chez la victime, c'est qu'elle va souvent feindre l'appui d'une tierce personne lorsqu'elle tente de nous mettre en bourreau. Elle va commencer à dire qu'elle n'est pas la seule à penser ça, qu'il y a d'autres mondes. Et quand on vérifie, c'est complètement faux, bien souvent. Le sauveur, lui, c'est un peu différent. C'est-à-dire que tu as les sauveurs que j'appelle les sauveurs purs, là, le pur sauveur, qui a un petit fond de culpabilité fondamentale toujours présent et qui va chercher un côté très gratifiant. Hein, je parlais tantôt du côté narcissique, très gratifiant à se mettre supérieur à la victime, à l'aider. Lui, il se trouve donc bon parce qu'il peut aider quelqu'un. Le problème, c'est qu'il ne va rien résoudre à la victime. Au contraire, va avoir tendance plutôt à, comment je pourrais dire ça, garder la victime dépendante de sa situation. Vous savez, la fameuse phrase où on dit... Donne pas un poisson à quelqu'un qui a faim, mais apprends-lui à pêcher. Ben, le sauveur apprendra pas à pêcher. Il va faire tout pour la personne. Des fois, il n'existera même pas de victime et les gens vont s'inventer en tant que sauveur pour en quelque sorte justifier leur existence. En quelque sorte, comme je dis, avoir un petit côté où... Ben, si je m'occupe des autres, ça va me revenir, donc mon estime de moi va augmenter. Le sauveur se sent souvent légitime de toute action pour arriver à ses fins, voire même de violence. Et là, encore là, je dis violence, pas nécessairement violence physique, mais violence verbale, menace, etc. C'est souvent même les plus violents que l'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'ils croient avoir le monopole de la vertu, hein, parce que eux viennent à la défense de quelqu'un qui les empêche de souffrir, ils se sentent vertueux et supérieurs. Donc, je le dis souvent, lorsque je parle de victimisation sur les réseaux sociaux, je le dis même dans mes vidéos aux gens, j'ai dit, vous allez voir, ceux qui m'insultent en commentaire, ceux qui vont répondre, sont soit des personnes qui se placent dans le rôle de la victime et qui tout de suite tombent dans le rôle du sauveur, donc qui se sentent légitimes de m'insulter, soit des gens qui n'ont pas tendance à se mettre en rôle de victime, mais qui se mettent régulièrement en rôle de sauveur et qui eux aussi se sentent légitimes de m'insulter, de me menacer, parce que ce que j'ai manifesté, ce que j'ai dit, rentre pas dans leur croyance. Le persécuteur, lui, c'est pas nécessairement une personne. Oui, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, mais ça peut être aussi une maladie, ça peut être une addiction, ça peut être le manque d'argent ou tout élément qui va venir déranger la victime, qui va venir contribuer au fait que la victime se place dans cette position-là, qui va venir contribuer à la souffrance de la victime. Par contre, tu vas avoir quand même aussi de vrais persécuteurs. Comme je l'ai dit tantôt, des fois, la victime va passer en mode sauveur et va tellement insister comme pour se venger qu'au bout du compte, elle va devenir elle-même le persécuteur. En mettant la faute sur les autres, en la contrôlant, en blâmant, en critiquant, en oppressant, en étant autoritaire, en ayant de la colère, etc. Souvent, par contre, étant donné que c'est de la victimisation, le bourreau est très souvent plus imaginaire qu'autre chose. Maintenant, je ne suis pas dans le déni, il existe de vrais persécuteurs, il existe de vrais bourreaux qui vont utiliser culpabilité, contrôle, blâme, critique et oppression. Mais c'est intéressant de noter dans ce que je vous ai décrit là, que la culpabilité est littéralement le catalyseur majeur qui maintient en place le triangle de Cartman. Ou le triangle dramatique. Vraiment, la culpabilité est comme l'ingrédient de base pour à peu près chaque rôle qui est joué. De par son état et ses paroles, ben, la victime génère de la culpabilité chez le sauveur et le bourreau. C'est la culpabilité qui pousse un individu à prendre le rôle de sauveur, et le persécuteur, lui aussi, va utiliser la culpabilité pour oppresser sa victime. Donc, selon moi, il y a une seule façon de sortir de cette espèce de triangle toxique-là, ce triangle dramatique-là, ben, c'est de refuser l'un ou l'autre des rôles en gérant sainement sa propre culpabilité de façon adéquate. Et c'est exactement ce que j'enseigne de base dans tous mes ateliers et tous mes accompagnements en personne, que ce soit par Zoom ou directement en personne, mais le one-on-one. D'ailleurs, je t'invite à aller voir sur mon site internet pascalbrousseau.com, dont tu vas trouver le lien en description, où tu peux trouver mon site et le petit bouton « Prendre rendez-vous », mais aussi où tu vas trouver tous mes ateliers, dont celui que je fais la promotion présentement, qui va avoir lieu au mois de mars, qui s'appelle « Cultiver l'amour et l'énergie vitale », qui est un atelier typique pour les couples qui veulent rendre leur relation à un niveau supérieur, c'est-à-dire le couple conscient. Mais c'est aussi pour tous les célibataires qui aimeraient avoir un terreau fertile et aller faire un tour au sein de leur inconscient pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils répètent constamment les mêmes types de relations ou qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à rencontrer. C'est toujours préférable d'être bien préparé, d'être à un bon niveau pour rencontrer la bonne personne, celle que l'on désire vraiment avoir. Donc, comme je dis, le triangle de Cartman est très présent chez les activistes en général, et là je ne dis pas que les causes sont mauvaises, je dis que c'est souvent la tactique qui est mauvaise, c'est-à-dire que tu as un groupe X qui va se victimiser, tu as les médias et le gouvernement qui voulant avoir la vertu vont se positionner en sauveur et attaquer le groupe Y qu'on a mis comme étant supposément les bourreaux. Habituellement, de ce temps-ci, la mode, c'est l'homme blanc hétérosexuel et le bourreau par excellence pour tous les activistes et tous les problèmes de société. T'as la personne qui se présente aussi comme victime, qui peut rapidement jouer les trois rôles. C'est important de se rappeler de ça. Le triangle de Cartman, c'est pas nécessairement trois personnes, mais ça peut être deux personnes. Et celle qui joue la victime peut facilement se déplacer dans les trois rôles. Particulièrement au niveau du couple, la personne peut faire ça pour obtenir ce qu'elle veut. Habituellement, c'est une personne qui, je dirais, souffre d'une certaine dépendance, dépendance affective. C'est une personne qui peut-être manque d'une certaine maturité émotionnelle. Comme je disais, qui va être narcissique. Ce narcissisme-là n'est pas, comme on dit, le pervers narcissique. C'est des petites tendances narcissiques en ce sens où on veut que tout le monde autour change pour notre état, où on n'est pas capable, nous, de se remettre en question et de prendre responsabilité pour les émotions que l'on vit. Et ça, c'est un signe de manque de maturité émotionnelle. Et jouer dans ce jeu-là équivaut à être responsable de la non-évolution de la personne. Parce que souvent, j'ai des gens qui vont venir me consulter et sont tannés de ça. Mais quand je leur dis de ne plus jouer le rôle et de juste ni jouer le sauveur, ni jouer la victime, ni jouer le bourreau, laisser la personne être dans ses émotions, laisser le temps passer et de juste gérer leur culpabilité, ça devient trop difficile, elles se sentent mal, elles se sentent obligées d'agir. Et ce que je dis, c'est que tu vas rester dans ça tant et aussi longtemps que tu ne laisseras pas prendre l'autre prendre ses propres responsabilités. Donc, tant que tu embarques dans le jeu et que tu joues le sauveur, tu es en quelque sorte responsable de la non-évolution de la personne qui joue le rôle de victime. Je ne sais pas si tu te reconnais, je ne sais pas si tu reconnais ton couple dans ça, dans ce type de dynamique-là. Peut-être est-ce que tu reconnais des dynamiques comme ça que tu as déjà vécues au travail, mais je t'invite à faire une certaine introspection par rapport à ça, question de voir clair dans tes relations et si c'est ta relation de couple, peut-être la pousser à un niveau supérieur. Parce que comme je te dis, j'ai lancé Cultiver l'amour et l'énergie vitale, qui est un mélange de voyage au cœur de ton inconscient pour voir quels sont nos mécanismes, quels sont nos problèmes de communication, quelles sont nos blessures qui fait qu'on n'arrive pas à être épanoui en couple ou en relation. En général. Et ce que j'entends souvent, c'est beaucoup des femmes me dire, Mon Dieu, Pascal, j'aimerais tellement ça participer à ton atelier, j'aimerais tellement ça en faire d'autres. Beaucoup de femmes m'ont dit vouloir faire, par exemple, du tantra, pour ceux qui connaissent le tantra, mais que le conjoint veut rien savoir de tout ce qui est travail sur soi, surtout de tout ce qui est très ésotérique. Et je dois t'avouer que parfois, je les comprends pour avoir fait des ateliers de tantra ou autres. Moi non plus, j'aime pas ça, les cérémonies ou les rituels un peu trop ésotériques. Moi non plus, surtout, j'aime pas ça, les danses extatiques ou étreindre quelqu'un que je connais pas pendant une demi-heure. Ben, si c'est le cas de ton chum, là, je suis probablement ton alternative. Il n'y a pas de ça dans mon atelier, mais il y a quand même, au final, le même objectif. D'atteindre des niveaux de connexion et de communion entre deux personnes qui atteignent des niveaux supérieurs, qui visent à atteindre le couple conscient. Et pour ceux qui sont célibataires, ben, qui visent à aller voir qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment en couple, qu'est-ce qui m'empêche d'être le terreau fertile et d'attirer la bonne personne, les bonnes personnes et d'être attiré par les bonnes personnes. Je t'invite à prendre conscience de ces rôles-là que tu peux jouer pour arriver à t'en sortir et je t'invite à aller visiter cet atelier-là que je donne. Le lien, tu vas le trouver en description. Parce que les drames, là, parce qu'on le dit, c'est le triangle de Cartman, c'est le triangle dramatique. Les drames, là, on veut les voir à télé. On ne veut pas les avoir dans notre vie. Non pas qu'on veut que notre vie soit un long fleuve tranquille. Mais les drames, les chicanes, les choses qui mènent à rien, qui brouillent la communication, si t'es comme moi, on n'en veut pas. On veut de la communication claire, on veut de la vraie expression des émotions, on veut parler au jeu et on veut surtout, surtout pas de culpabilisation. Et vous le savez, c'est l'émotion avec la peur sur lesquelles je travaille le plus et sur lesquelles j'enseigne le plus à mes clients de s'en sortir, de les maîtriser pour qu'ils soient utilisés à ce à quoi elles servent et empêcher de stagner dans notre vie. Sur ce, je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là qui est un peu plus court que les autres. Si tu as des questions, je t'invite vraiment à venir me les poser dans mon groupe Hypnoconscience. Je te salue et je te dis à la prochaine pour un autre épisode de Hypnoconscience.